L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour à tous. Alors, nous allons aujourd'hui, ce jour, vous présenter l'enregistrement de notre troisième Gazette Africa. Et c'est la deuxième partie, puisque la première partie vous a été déjà présentée. Et cette Gazette Africa, au titre de l'arbre à palabres à l'écriture engagée, recevait donc trois écrivains poètes du continent africain. Pour cette deuxième partie, après l'interlude musical de Sixon LDM Mavuko, le beatmaker, nous avons reçu donc un poète, écrivain poète sénégalais, du nom de Elaz Ndongo Tchoy, qui est venu nous présenter son œuvre. Il a été reçu par Marcel Camille, que vous avez entendu la semaine dernière, pour parler aussi lui-même de sa démarche. Et donc cette deuxième partie va nous mettre en contact, va assister à un échange entre ces deux poètes, dont notre invité, Elaz Ndongo Tchoy, qui a fait le plaisir de venir nous rencontrer. Il ne venait pas d'ici, il venait d'un peu loin, Limoges, je crois. Et je vais me permettre de lire un petit épigraphe pour peut-être vous mettre l'eau à la bouche. Je vais me permettre de lire l'épigraphe d'un de ses livres qui s'appelle « Douce cacophonie ». Et donc, c'est l'épigraphe qui dit « Contrairement à bon nombre d'écrivains, de poètes ou d'amoureux de la plume, je n'ai pas grandi avec la passion des lettres, de la poésie. J'assume. Je m'assume. Oui, je l'assume. Je n'ai jamais désiré apaiser le fardeau de la vie par des moments de lecture ou d'écriture. C'est tardivement que le virus du verbe et de la plume m'a piqué au fil du temps. » Et depuis, l'écriture m'a trouvé dans mon silence et m'a insufflé son souffle magique pour que je sois un de ces prophètes de plumes qui chantent à l'humanité sa belle existence. Si vraiment ce virus est mortel, que personne n'essaye de m'en guérir, je me suicide avec plaisir dans la mer vivante de l'écriture. Ainsi écrit Elaz Ndongo Tchoy. Donc je vous souhaite une bonne épisode de rencontre entre Camille et cet écrivain et ce poète doué.
Donc j'ai le plaisir en tout cas d'accueillir Elaz Ndongo Tchoy. C'est bien. Donc, Elaz, pour te présenter un petit peu, bon, je te laisserai te présenter dans l'ensemble. Donc, tu es né à Louga, au Sénégal, et tu as fait tes études suite à l'université Cheikh Anta Diop, où tu as obtenu une licence en lettres modernes et en master, en fait, en sciences du langage. Voilà. Et aujourd'hui, Tu continues, je pense, les études, tout. Et c'est donc le domaine.
Et bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, je vais remercier Madame Guylaine Dubois, la radio aussi, et Marcel, et l'ami Zakaria, à qui je suis venu comme remplaçant, parce que c'est lui qui devrait être là. Donc je viens de Limoges pour venir juste assister à cet événement. Donc merci de m'avoir associé à cet événement. Merci beaucoup et bienvenue à tout le public qui a fait le déplacement pour venir faire partager avec nous ces moments de poésie. Comme tu viens de le dire, je suis né au Sénégal, à Louga, c'est à 200 km de la capitale Dakar. J'ai eu un cursus un peu turbulent quand même, parce que j'ai eu à laisser les études à partir de seconde. J'ai abandonné 2 ans et j'étais devenu vendeur de cosmétiques. Ouais. Donc c'est après que je suis revenu continuer mes études et pour avoir le bac en 2012. Après, j'ai été orienté au département de lettres modernes où j'ai eu une licence. Et à la suite, ça ne me parlait pas beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de livres à lire, beaucoup de citations. En fait, les cours étaient un peu étrangers. Et donc, je suis orienté vers les sciences du langage où j'ai eu un master que j'ai soutenu en 2018. Et au début, je n'ai jamais eu l'idée de sortir du Sénégal. Je voudrais faire la thèse là-bas, faire toute ma vie. Mais c'est après que j'ai déposé une thèse qui parlait un peu de slam, qui devrait être comparé avec la spiritualité religieuse, mais il y avait un certain manquement par rapport à l'administration. Et c'est en ce moment que j'ai décidé, par hasard, de venir en France. C'est la première fois que j'ai eu mon visa. Et je suis venu ici faire quelque chose qui n'a rien à voir avec mes études. Parce qu'en fait, je suis venu ici pour aller au CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers, pour faire management de projets et d'affaires. Et en fait, ça parlait que des chiffres. Et j'avais une formation complètement littéraire. En fait, je me suis un peu égaré. J'ai fait une année Master 1. Je n'ai même pas fini les cours parce que je savais que ce n'est pas la bonne voie à apprendre. Mais je n'ai pas regretté. Ça m'a permis de retrouver ma première voie. Et je suis, à la suite, allé à Paris-Descartes. C'est là même que j'ai découvert la sémiotique ou sémiologie. Et je me suis inscrit en Master 2. Et j'ai fait un master sur la question liée à la restitution des œuvres d'art africaines, des biens culturels. Je l'ai soutenu au mois de septembre dernier. Et actuellement, je viens tout récemment de m'inscrire en thèse à Limoges. Et je continue sur le même sujet. Donc, de manière très, très brève, c'est ça mon cursus universitaire.
Justement, je ne l'ai pas dit, mais Elage est en fait poète. Et donc, c'est en tant que poète qu'il est invité. Et aussi, bon, tu l'as évoqué, tu remplaces en fait Zakaria Sall. Mais en fait, Zakaria Sall en fait, vient d'être muté à Mayotte, en point poste. Et il a eu la gentillesse justement de te proposer. Et ça a été aussi un grand coup de cœur aussi donc de pouvoir te rencontrer parce que voilà, je vous ai rencontré à ce moment, enfin il y a quelques mois, au Salon Noun à Paris. Et c'est là que j'ai justement fait aussi la découverte de tes ouvrages. Et donc tu as un premier recueil qui s'intitule « Douce cacophonie ». Et moi, ce qui m'a interrogé, en tout cas la première fois que j'ai vu le titre, voilà, c'est pourquoi ce titre. Même si j'ai une petite idée à peu près de voilà, du squelette.
En fait, il me faut juste avouer, parce que je l'ai un peu dit dans l'épigraphe du premier texte, en fait, il n'y a rien dans mon environnement immédiat qui menait à la littérature ou à la poésie. Que j'ai eu ma mère qui n'a même pas eu le CFA. Donc, il a arrêté à CM1. Il n'est pas analphabète quand même, comme la mienne. Elle n'a pas fait des études un peu universitaires ou collège. Mon père, il n'a même pas eu le bac, mais c'était un grand intellectuel. En fait, c'était la bonne génération. Donc, il n'avait même pas le bac. Donc, il n'y avait rien dans mon environnement immédiat qui m'a mené à la poésie ou à la littérature. J'ai un peu commencé en cinquième avec le rap, parce que c'était un peu l'underground, en fait, des deux grands frères qui étaient rappeurs, et j'ai commencé à griffonner quelques textes. Après, c'est à la suite que j'ai arrêté. Et en 2012, je me souviens, j'ai fait le bac une seule fois en 2011, je l'ai loupé. Après, je suis allé vers le sud en Casamance pour refaire le bac une deuxième fois. J'avais rencontré un ami, un camarade de classe, Demba Diao, qui est mort subitement après que les résultats du bac sont sortis. Et c'est en ce moment-là que j'ai commencé encore à griffonner quelques textes sur l'amour. Je me souviens des premiers mots, « Kong Kong, c'est qui mort ?»« Je pense que tu cherches mon frère mort. » En fait, parce que j'avais un grand frère qui s'appelait mort. C'était juste une possibilité d'évacuer une certaine mélancolie, peut-être enfantine ou ignorante. Et à la suite aussi, j'ai arrêté. En 2015, en licence aussi, j'ai perdu au mois de mars, je pense, le 16 mars, mon meilleur ami que j'ai pleuré, c'était la première fois. Et 6 mois après, j'ai encore perdu mon père. Donc c'est à partir de là que je me suis dit, en fait, peut-être il y a quelque chose qui me lie à la mort et que je pourrais écrire dans un texte. C'est comme ça que j'ai commencé, entre université, Colobane, Marist, j'ai commencé à griffonner quelques textes sur mon téléphone. L'ironie du sort est que, en fait, j'avais un peu la phobie de voir mon nom sur une couverture. Ça ne m'a jamais. En fait, jusque-là, je suis en train de me faire beaucoup de violence, même pour dire que je suis. En réalité, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai beaucoup de mal à le dire, et même à l'entendre quand même. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec des amis, Mamadou Sokhna Diop, qui a assuré la postface. Et un jour, je me suis réveillé comme ça, j'ai décidé de publier tous les textes sur Facebook et de me départir une bonne fois avec la poésie. Et ils m'ont tordu le bras. Donc c'est eux-mêmes qui m'ont poussé à la publication, mais je n'ai jamais aimé être auteur, même si je commençais à écrire. Il faut dire que j'ai commencé aussi à lire comme tout Sénégal, les poètes français, Baudelaire. Parce que très souvent, on découvre les poètes français avant de découvrir nos propres poètes. Exactement. C'est tardivement que j'ai commencé à lire Senghor, Birago Diop. Et le principe voudrait que l'on commence chez soi. Mais c'est comme ça, le système. Donc j'ai commencé à lire Baudelaire. Et il y a quelque chose qui m'a marqué. Je crois que dans un de ses textes, je le cite comme ça en substance. On disait qu'il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. L'évocation à Dieu ou spiritualité est un désir de monter en grade. Celle de Satan ou animalité, une joie de descendre. Et j'ai eu cette citation en tête. Et c'est dans ce recueil-là que je suis en train de créer une sorte d'entre-deux entre tout ce qui est animalité tel homme et tout ce qui est spiritualité. C'est en réalité ce qui explique en même temps le titre « Douce cacophonie ». C'est-à-dire l'idée, c'est à partir de quel moment une douceur peut être cacophonique, je ne sais pas, ou à partir de quel moment une cacophonie peut être douce, c'est peut-être au lecteur de me le dire, mais il y a une sorte d'oxymore qui est un peu liée à cette double postulation de l'homme. Et aussi dans la couverture, il y a un ciel un peu éclairé, et sous le ciel, il y a des nuages un peu sombres. Voilà, ouais, et tout ce qui est ciel éclairé représente un peu la spiritualité de l'homme. Et tout ce qui est noir, nuance, représente un peu la bestialité humaine. Donc c'est ça que j'ai essayé de traiter tout le long du recueil. C'est à chaque fois, quand je parle d'amour, il y a la haine à côté. Quand je parle de Dieu, il y a Satan. Quand je parle de l'homme, il y a la femme. Donc j'ai essayé de créer une sorte de dualité entre les deux tout le long du texte.
Oui, c'est effectivement des énergies différentes dans les textes en plus. Et d'ailleurs, j'évoquerai, on en reparlera tout à l'heure, des oxymores encore, par rapport à un texte en particulier, et j'aimerais bien avoir ton avis dessus. Et j'ai aussi remarqué que dans ton écriture, en fait, tu mêles donc, parfois, en tout cas, la critique sociale aussi, avec une forme de contemplation, en fait. Donc, il y a l'écriture du sacré. Est-ce que c'est la spiritualité qui t'inspire, ou bien c'est ton regard sur la société qui te ramène en fait à ce sacré-là?
J'ai dit les mêmes choses en même temps, parce que peut-être parfois il faut avoir le désir d'une certaine spiritualité pour pouvoir jeter un regard critique sur la société. En fait, il y a des textes qui ont été critiques, mais de manière un peu ironique. Un texte qui parle d'amour idéal, qui ne parle même pas d'amour, qui parle d'amour de smartphone. Donc c'est à la suite du texte que le lecteur puisse savoir que je parle du téléphone. Donc il y a une certaine critique sociale qui est un peu voilée, qui n'est pas trop brute. Et je crois que cette désir de spiritualité, peut-être quand on a grandi dans un environnement religieux, entre guillemets, comme le Sénégal, on est forcément atteint par ce désir de spiritualité. Mais il faut essayer un peu de transport, parce que quand on est dans la poésie, je ne voudrais pas que le texte soit trop religieux. En fait, je ne me réclame pas religieux dans un texte, parce que quand on écrit un texte, on n'écrit pas pour notre appartenance religieuse, on écrit pour tout le monde. Mais il y a toujours une certaine influence dedans. Je crois que la spiritualité, ce n'est pas quelque chose qui est lié aux religions révélées. Donc c'est un désir d'élévation de tout être humain. On n'a pas besoin d'être musulman, chrétien, bouddhiste pour vivre la spiritualité. Je crois que c'est une relation individuelle, intime, avec quelque chose supérieur. Peut-être quand je suis musulman, je peux dire Dieu. Le chrétien va dire Dieu, mais celui qui ne croit pas au Dieu, peut-être il y a une force supérieure qui l'anime. Et que c'est comme ça que je conçois une relation spirituelle, mais pas forcément avec un créateur, une créature qui serait Dieu. Donc c'est une relation intime avec soi-même. Surtout avec les autres, avec une certaine esprit supérieur, si ça existe dans notre tête.
Alors, il y a un texte que j'aimerais te proposer, je ne sais pas si tu veux.
D'accord. Ce texte, c'est mélopée divine ou chanson de foi. Quand Satan me berce avec ses fausses vérités, dans ta lumière diverse, mon être pour me purifier. Mon âme impure vient juste de se plier devant ta face pure, rien que pour prier. Ma langue attachée aux zikres avec une intonation divine, je me sens loin du shirk, là où la grande foi se dessine. Quand ta lumière une nuit pénètre dans mes veines, le premier pécheur fuit et la pureté devient reine. Tu es l'artiste des mondes et ta main est aussi parfaite. L'humain qui rend sa vie immonde connaîtra demain la pénible défaite. C'est quelque chose en fait qui parle un peu de mélodie divine, tu vois. En fait, c'est une sorte d'exaltation d'une certaine divinité. Dans ce texte, c'est Dieu quand même, parce que je suis musulman monothéiste. Donc ça part en rapport complètement à Dieu, mais ça peut avoir différentes relations pour celui qui ne croit pas à Dieu. Donc il y a une certaine affection religieuse ou spirituelle envers quelque chose, et ça répond. C'est pourquoi j'ai essayé un peu de ne pas évoquer directement le nom Dieu, pour laisser libre arbitre à chacun le corroborer à sa propre foi.
Je l'ai remarqué, effectivement. Et au-delà de, justement, du sacré, donc il y a aussi le temps de la révolte, au fait, que tu peux avoir. Ça, je l'ai repéré sur un texte, le texte Crime,
oui.
S'intitule.
Oui.
Le titre dit tout.
Je vais le lire. Oui, si oui, tu oui, ça fait plaisir.
Crime. Je me suis réveillé, le corps déchiré, l'âme nue. Après que vous m'avez ôté le désir de la vie, suis-je condamné par le péché originel dont je suis ingénu, ou par la splendeur de mon être dessinant sur le tableau de vos cœurs l'envie? La fatalité des coups de main résonne dans l'intimité de mon âme, et l'histoire racontera aux enfants de demain que, par votre indifférence, ma foi m'a fait subir un tel drame. J'ai résisté à vos belles bassesses jusqu'à ce que la blancheur de cette épée s'accouple avec ma gorge noire. J'entends le bruit sourd de mes gouttes rouges s'évader comme des oiseaux ivres vers le ciel sombre. Voilà, c'est fait. Je suis né, les larmes aux yeux. Aujourd'hui, je pars avec les larmes qui donnaient souffle à mon corps. Ô ange, que faisais-tu dans les cieux pendant qu'il me réservait ce triste sort? De là, j'entends encore tous les innocents réclamer justice dans un monde où la vertu se nourrit des délices du vice.
Bonne lecture. Voilà,
c'est un plaisir.
Ouais, en fait, en réalité, c'est un texte qui évoquait un peu le terrorisme dans deux sens. Le terrorisme, en fait, pour celui qui est terroriste et qui tue quelqu'un au nom de Dieu qui est amour. En fait, comment on peut tuer pour l'amour de Dieu au nom de l'amour? C'est un peu ça qui m'a un peu étonné. Et l'autre sens aussi, même si il y en a certains qui font, parce que terrorisme, ça vient du mot terreur. Et les gouvernants qui ne respectent pas leur peuple, c'est des terroristes parce qu'ils font de la terreur. Donc, il ne faut pas que le terrorisme soit juste attribué à peut-être quelqu'un qui est de confession musulmane. Et à chaque fois, si ça vient de quelqu'un qui se réclame musulman, c'est un terroriste. Mais si ça vient de l'autre côté, c'est peut-être un crime. Donc, il faut, je crois, que le même substantif pour les deux camps et condamner la violence d'où qu'il puisse venir. Donc, c'était juste ça, le fait de maintenir face à quelqu'un qui peut tuer quelqu'un au nom de la foi. Je crois qu'il n'y a pas une personne, un être humain qui mérite d'être tué par sa foi. Les gens sont libres de croire à Dieu comme les autres sont libres de ne pas croire. Donc même si Dieu à qui on devrait croire n'a pas forcé les gens à croire, pourquoi un être humain devrait s'ériger à la place de Dieu pour pousser certaines personnes à croire? C'est juste ça l'idée du texte.
Exactement. Et cette idée de cacophonie, de conflit aussi, conflit de mots, de bruit, tout ce qu'il y a là. Et je voulais savoir, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui au Sénégal, de justement ces conflits qu'il peut y avoir, en tout cas au niveau des idéologies. C'est que, par exemple, je prends le cas des religions, les guerres de religion, on en a connu un petit peu en Afrique, dans le passé, en Tanzanie. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente voilà. Et socialement, est-ce que c'est prégnant aussi dans la société sénégalaise?
Pas encore. Ouais. On est en train de préserver un certain territoire. Parce qu'en fait, au Sénégal, tu peux venir dans une famille. Une partie est chrétienne, l'autre est musulmane, et ça n'a jamais dérangé. Donc moi, en fait, l'un de mes meilleurs amis, il est chrétien, et ça n'a jamais été un problème. Donc, du point de vue social, il n'y a jamais eu de guerre civile, il n'y a jamais eu de guerre de religion. Il peut y avoir peut-être une guerre froide entre esprits religieux, parce qu'il y en a certains qui sont trop dans les extrêmes, un peu fanatiques, mais dans la pratique, il n'y a pas de problème entre musulmans et chrétiens, même si les musulmans représentent 97%. Ouais, mais pour la stabilité du pays, il n'a jamais eu de problème et on souhaite que ça continue comme ça. Parce qu'en fait, on a des pays du Mali, on sait ce qui se passe avec... Peut-être certaines personnes, ils utilisent mal la religion pour défendre une certaine idéologie politique. En fait, c'est ça la réalité. Mais la religion qui est une pratique intime, intérieure, tu crois à Dieu, en fait, c'est une relation entre toi et Dieu. Tu veux prier, tu as ta chambre, tu peux aller prier. Donc, tu n'as pas besoin d'exhiber ta religion pour montrer que tu crois à Dieu ou tu es dans d'une appartenance musulmane ou chrétienne. En tout cas, pour le moment, au Sénégal, il y a la cohabitation parfaite, je pourrais dire. Même les fêtes, en fait, moi, dans ma famille, il y en a qui sont chrétiens, mais il y a un gros souci. Quand tu as les Pâques, je pense la fête, c'est les chrétiens. Quand il y a Corité ou Tabaski, il passe la fête chez nous.
Ah oui. Et d'ailleurs, je pense qu'il y avait des vidéos comme ça qui circulaient où là, il n'y a pas longtemps, je pense que c'était la dernière rupture de jeûne qu'il y a eu. On voyait justement des chrétiens distribuer il y avait de l'eau et en tout cas du pain, je crois, pour en tout cas rompre le jeûne pour aider au fait à.
Oui, ça se passe toujours comme ça
voilà,
au Sénégal.
Je trouve ça quand on était formidable jeune, en fait.
Les dimanches, on partait nettoyer l'église. Ouais. Tu vois, c'est un lieu de culte. En fait, c'est un lieu de culte, mais c'est un lieu comme cette salle. Donc ça ne dérange pas d'aller à l'église, de nettoyer pour nos fidèles. Parce que pour moi, au-delà même des religions, il y a un aspect humain à respecter. Un aspect humain, et je crois que. Ça revient à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure pour l'engagement et de quelle forme qu'il soit. Je crois que le meilleur engagement, c'est la réhabilitation de la dignité humaine. Et la dignité humaine, ce n'est pas être ami. Je n'ai pas besoin que tu sois mon ami pour me montrer que tu as une dignité à préserver. Mais il faut juste respecter mon identité en tant qu'humain. Donc je crois que c'est ce qu'il nous faut pour vivre en paix.
L'Afrique dans tous ses états, une émission réalisée et produite par Radio FM+.